L'installation à l'heure de la sieste invite le spectateur à pénétrer dans un espace qui donne à voir une chambre à collioure dans laquelle on peut sentir tout le travail de l'artiste Henri Matisse et de ses fenêtres à collioure notamment, avec la lumière qui vient sculpter l'espace dans lequel en fait on va pouvoir à la fois voir dans un premier temps cet espace, puis dans un second temps écouter cet espace, l'intérieur et l'extérieur, avec le son de la mer et de l'intérieur de la maison. Et enfin, une troisième expérience avec une expérience interactive, avec un casque de réalité virtuelle qui donne à voir l'intégralité de l'espace, mais qui va aussi permettre de donner une interactivité au spectateur passif, c'est-à-dire qui va modifier la perception du son dans l'espace, mais aussi le déplacement d'une l'ombre d'une silhouette dans cet espace en fonction de son regard. Mais il s'agit avant tout d'une expérience contemplative dans laquelle le spectateur est invité à lui-même faire la sieste.
Qu'est-ce qu'on retrouve de l'environnement de Henri Matisse à Collioure? Enfin, on le connaît bien ici dans notre région puisqu'il y a le musée Matisse. À Collioure, on connaît peut-être moins son environnement. Comment on a restitué dans cet ensemble ici, dans cette installation, des éléments qui proviennent de son univers?
Ah, tout simplement, je me suis rendu à Collioure, sur les traces de Matisse, on a cette fenêtre qui est centrale, bien entendu, qui est exactement la fenêtre de fenêtre ouverte 1905 avec cette balustrade qui est exactement celle-ci. On retrouve aussi une chaise basse sur laquelle les femmes au début du XXe venaient avec leurs occupations comme des lectures ou de la couture au bord des fenêtres. On a ce lit Napoléon. Et on retrouve aussi, à la fois dans le casque de réalité virtuelle, mais aussi un peu dans cet intérieur, des photographies et des dessins de Matisse directement. Donc on retrouve bien entendu tous ces éléments qui sont matériels, et puis on retrouve un peu l'immatériel, ce qui appartient totalement à Matisse et au travail de Matisse à Collioure, et ce pourquoi il est allé à Collioure, c'est-à-dire la lumière si particulière du sud de la France qu'il est venu chercher, et les couleurs dans les matériaux. C'est-à-dire que le sol des tomates rouges tranche et ont un rapport très très fort avec ce ciel bleu et cette mer, qui apporte en fin de compte vraiment un dynamique dans l'image et une couleur qu'à l'époque on appelait fauve, ce côté fauve, d'utiliser une couleur pure. En fin de compte, Matisse peignait ce qu'il avait devant lui, il peignait la couleur et il peignait la lumière. Et c'est par ces couleurs que sont venues la lumière.
Donc la mer, on la voit bien hein, par la fenêtre et on voit aussi là un bateau qui passait.
Oui, alors. Justement, tout l'enjeu aussi de cette installation, c'est que on est dans un moment contemplatif où on a l'impression qu'il ne se passe rien, et puis on vient se raccrocher à ces détails qui sont effectivement un bateau qui vient passer, un son de cloche qu'on entend, un bruit de pas, ces frottements. Voilà, ce sont ces détails-là qu'on vient chercher pour être totalement à soi, puisque le temps de la sieste, c'est un temps où on est à soi et on ne peut pas le percevoir si on est en activité et on n'est pas concentré dans cet intérieur. Et donc, cette installation vient amener par petites touches le perceptible et l'imperceptible, comme ce bateau, un oiseau, etc. Et c'est pour amener le spectateur à rester devant cette pièce, à s'imprégner de l'ambiance, comme pouvait s'imprégner une ambiance, bien sûr, un peintre comme Matisse.
Donc quand on reste, qu'on prend le temps, enfin, il faut se laisser aller, hein, pas seulement à l'imagination, puisqu'il y a des images qui passent et qui nous raccrochent à une certaine réalité, sinon une fausse réalité. Donc on a vu une silhouette là qui s'est installée au balcon.
Oui, alors là aussi des rapports et d'une période un peu faste aussi par rapport à Matisse à Collioure, c'est qu'il vient justement par sa technicité faire en sorte que l'intérieur et l'extérieur se confondent et que l'extérieur devienne un tableau de l'intérieur et on n'ait plus de rapport de réalité. Lorsqu'il peint, les éléments arrivent par aplats de couleurs. Il ne vient pas dessiner une réalité, c'est la couleur qui amène la forme. Et là, encore une fois, dans ces mêmes espaces, on a de la vidéo, de l'image de synthèse et de la photographie. Les trois vont se confronter dans un même espace et on ne saurait plus quelle est la frontière. Et cette frontière matérialisée aussi par la fenêtre qui est une frontière entre un extérieur et un extérieur et sert de frontière entre le réel et l'irréel, entre le rêve et la réalité et entre l'image de synthèse, l'image vidéo, la photographie et la peinture.
Donc on voit par moments des éclairages discrets mais qui existent, comme là sur cette chaise, on voit un rayon de lumière qui intervient. Donc on peut se dire qu'à tout moment, si on prend le temps des choses, il se passe des petits événements. Quelle est l'importance relative peut-être de ces événements dans le contexte et peut-être dans l'histoire du peintre ?
Tout est une question aussi de temporalité, c'est-à-dire que la peinture, comme la photographie au début 20e, appartiennent à une certaine temporalité. Les choses sont fixes, mais donnent à voir quelque chose de proche du spectateur, c'est-à-dire on est plus dans quelque chose de figé, d'essayer de figer le temps. On vient essayer de représenter un moment. Ici, c'est pareil, ce sont ces petites subtilités qui amènent à ralentir le temps sans l'arrêter totalement. C'est-à-dire ces petites variations viennent nous prouver qu'on n'est pas dans un tableau ou une photographie, mais nous amènent à repenser le temps dans lequel nous, on est spectateurs. C'est-à-dire que lorsqu'il peignait en 1905 ses portes-fenêtres sans éléments autres que cette fenêtre, c'était réellement une mise en abîme du spectateur. Et ici, c'est le même procédé, c'est-à-dire que c'est le spectateur qui est totalement invité à rentrer dans cet intérieur pour, en rentrant dans cet intérieur, dans ce tableau, dans cette fenêtre, cette peinture, cette vidéo, ce que l'on veut, en rentrant dans cet espace, on rentre dans un rythme.
Est-ce que tout est bouclé en termes de scénario avec une durée précise ou est-ce qu'il y a des éléments aléatoires qui font que les scènes sont finalement à l'infini, pas improvisées mais apportées au spectateur ?
L'idée de cette installation est de réaliser justement une installation où la temporalité est presque à l'infini. Elle tourne en permanence. On a effectivement cette période où le spectateur rentre dans l'espace et les volets vont s'ouvrir devant lui. Donc voilà, la première interaction par la vie amène la vie. Et puis, lorsque le spectateur au casque de réalité virtuelle met sous ses yeux cet intérieur, en fin de compte, il y a possibilité de regarder soit vers la chaise, soit vers le balcon, soit vers le lit. Et là, une silhouette apparaît et un déclenchement d'un scénario avec l'ombre de cette silhouette vient soit au balcon, à la chaise et au lit. En fin de compte, le spectateur vient choisir ce qu'il se passe. Et lorsqu'il retire le casque, l'ombre, au bout de quelques minutes, va se retirer pour aller de l'autre côté de la porte qu'au final, on ne voit pas dans cet intérieur et qui va porter en continu une bande-son sonore, tout comme la mer qui est en réalité une boucle d'une dizaine de minutes. Mais justement, c'est parce qu'on n'arrive pas à voir où est la boucle qu'on est complètement dans une intemporalité et que cette heure de la sieste peut durer éternellement et qu'on n'est pas sur un moment figé. Ce sont des micro-boucles qui donnent cet infini temporel.
Voilà, donc on a présenté votre œuvre qui s'appelle
À l'heure de la sieste.
Et maintenant, on va vous présenter vous.
Oui, alors je suis Jonathan Paquet, artiste, vidéaste, plasticien, qui travaille justement sur la notion d'espace, de lumière et de couleur. Trois thématiques proches aussi de Matisse, évidemment. Et je viens du monde à la fois technique avec voilà, des compétences techniques et aussi le regard artistique avec une école comme le Frénois.
Donc cette œuvre-là, dans votre parcours, s'inscrit à quel moment et est-ce qu'on peut avoir une idée de vos évolutions, sinon de vos révolutions ?
Oui, alors je viens du monde du cinéma, donc un monde justement dans lequel le spectateur est invité à rentrer dans cet espace qui est la salle de cinéma avec une rythmique très particulière et quelque chose de bien connu, mais avec une temporalité différente. Mais j'ai voulu aussi explorer la photographie aussi dans un second temps, et puis lié avec cette installation, en fin de compte, sans aucune prétention, l'histoire de la peinture, de la photographie, du cinéma et de la vidéo dans un seul et même espace. Et c'est justement là où on va dire la fin de mes recherches plastiques et le début de d'autres. C'est une œuvre vraiment pivot dans mon travail, dans la plasticité et dans la recherche d'une lumière autre et surtout d'une réflexion autre sur les nouvelles images, c'est-à-dire notamment avec la réalité virtuelle. Une des questions qu'on peut se poser forte de cette installation, en fin de compte, est-ce que, alors que dans la photographie, la peinture et même le cinéma, le hors-champ existe, est-ce qu'on peut encore créer le hors-champ dans la réalité virtuelle? Et je crois que peut-être qu'une partie de la réponse se trouve dans cette installation.
Bien, merci. Donc le Frénois, c'est presque terminé pour vous ou...
C'est terminé d'une certaine manière d'un point de vue éducatif. Les cours sont terminés, même si on n'a pas vraiment de cours. Mais la vie de l'œuvre, elle continue. Elle est présentée actuellement au Musée Catho, Musée Catho Cambrésis, au Musée Matisse. Et puis, on espère aussi la faire évoluer dans d'autres expositions, et notamment dans les musées Matisse, à Nice, et pourquoi pas, on l'espère, pour une grande exposition qui pourrait se faire à Paris, je ne peux pas en dire plus. Mais voilà, et puis on a nos films, par exemple mon film de première année, le film Anna, est présenté au Festival Cinémonde, au Festival de Berck-sur-Mer, du film indépendant à partir du mois d'octobre.
Bien, bonne nouvelle.
Merci beaucoup.